Bonjour tout le monde, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles est aujourd'hui un sujet sensible, un sujet qui peut être tabou, mais c'est évidemment important d'en parler parce que ça existe. On va parler de ces femmes qui ne peuvent pas avoir de rapport sexuel pour tout un tas de raisons et qui pour autant souhaitent et réussissent à devenir maman. Comment faire? Vous allez tout comprendre en écoutant le témoignage fort de Sophia. Et puis, juste après, nous en parlerons avec Laure Senmo-Karikiri, qui est sage-femme et sexologue en même temps. C'est parti.
Alors, je vais vous donner la définition de l'OMS du vaginisme. C'est la contraction involontaire des muscles du périnée en cas de tentative de pénétration. Et pour les femmes qui souffrent de cette pathologie, avoir un rapport sexuel avec pénétration ou faire un examen gynécologique, d'ailleurs, c'est mission impossible. Bonjour Sophia.
Bonjour.
Merci d'être là. Je voudrais vous dire à quel point, parce que je sais que ça vous coûte de faire ce témoignage, vous ne venez pas en chantant en disant « Ah super, je vais raconter mon intimité ». Vous le faites pour aider toutes les femmes qui souffrent de ce problème et dont on ne parle absolument pas. C'est-à-dire que c'est vraiment un problème oublié d'ailleurs. 6 ans qu'on fait cette émission et c'est la première fois qu'on en parle véritablement. Donc vous avez longtemps, vous, souffert de ce trouble. Vous avez dû mener un vrai combat pour devenir maman. Votre petit garçon a aujourd'hui 5 mois et vous êtes de plus en plus proche de la guérison. Merci de contribuer donc à libérer la parole. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quand et comment vous vous êtes rendu compte que vous aviez un problème? C'était à quel âge et à quelle occasion?
Oui, alors c'était vers l'âge de 18 ans, j'ai essayé de mettre un tampon pour la première fois, voilà, au cours de vacances, comme beaucoup de jeunes filles. Et là, je me suis aperçue que ça ne rentrait pas, ça me faisait un peu mal, mais j'ai pas trop insisté.
Vous n'aviez jamais eu de relation sexuelle avant ?
Non, j'avais jamais eu de relation sexuelle. Et puis, j'ai ressenti un petit peu une sorte de nausée. Donc, j'ai pas insisté plus que ça. Et ensuite, j'ai eu mon premier copain sérieux à l'âge de 20 ans. Je suis tombée sur quelqu'un de génial parce que c'est mon mari actuel. Et voilà, et au moment où on a eu nos premiers rapports, enfin en tout cas les préliminaires, je me suis aperçue que ça me faisait exactement la même sensation quand il a essayé de mettre juste un doigt.
La nausée aussi et
en tout cas la douleur et vraiment cette fermeture. Voilà.
Qu'on comprenne bien, il arrive à vous pénétrer et ça vous fait un mal de chien ou il arrive même pas à vous pénétrer?
Alors, il y a plein de sortes de vaginismes différents. C'est vraiment une pathologie qui se situe un peu dans la tête. C'est comme presque une phobie. Donc, il y a des femmes qui vont avoir la pénétration possible et qui vont avoir des douleurs. Moi, je n'arrivais pas du tout à avoir de pénétration. C'est-à-dire que c'était un mur, c'était du béton, ça ne passait pas.
Je l'ai dit en introduction, il y a évidemment la pénétration. Il y a aussi les examens gynécologiques.
Alors là, bon.
Comment ça s'est passé aussi, le premier, par exemple?
Et il y a aussi des femmes qui peuvent avoir une vie sexuelle tout à fait normale et des blocages pour les examens gynécologiques. Moi, évidemment, c'était les deux. Pour la première séance, elle a approché le spéculum de moi, je fermais déjà les genoux, en fait. C'était vraiment une réaction. Tout mon corps disait non. Donc, elle a juste fait un toucher vaginal qui m'a fait mal. Et on s'est arrêté là. Et en fait, elle n'a pas eu une réaction géniale parce que... elle m'a demandé, vous avez eu des rapports ou pas? Ça faisait 1 an que j'étais avec mon conjoint. Je lui ai dit oui, mais c'est vrai que je sais pas, je suis un peu perdue, ça rentre pas bien, je comprends pas trop. Et en fait, elle m'a répondu qu'elle était pas sexologue. Ça m'a un peu heurtée parce que j'avais 20 ans, j'étais jeune, j'avais besoin d'être un peu aiguillée.
Elle vous a pas du tout posé de diagnostic, elle vous a pas aiguillée.
Elle m'a pas donné de nom, de mots, elle m'a pas dit ce qu'on a tout envie d'entendre, c'est ça arrive, il y a plein de gens comme vous et ça peut se guérir. Voilà, non, elle m'a juste dit ça. Donc c'était pas.
Alors l'année qui a suivi, vous êtes entraînée à mettre des tampons, vous y êtes parvenue. En revanche, pour les relations sexuelles, vraiment impossible d'en avoir. Après 10 ans de relations, vous pensez à un projet d'enfant. Il faut dire que on va le préciser, mais il n'y avait pas de pénétration, mais on peut avoir des rapports sexuels, il faut le dire.
C'est important de le dire.
Qui se situent ailleurs et qui sont tout aussi formidables.
Nous, on essayait toujours la pénétration, on a toujours essayé. C'est important, je pense aussi, de le dire pour les femmes vaginiques qui nous regardent. il faut...
À chaque rapport, vous essayez
ouais,
quand même.
Tout le temps, ouais. Ouais, ouais. J'étais... Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut tout à fait avoir une sexualité sans pénétration, et c'est aussi important de le dire.
Voilà. Après, évidemment, il y a le problème de l'enfant qui se pose. Ça, c'était, je le disais, après 10 ans. Et c'est là que le diagnostic a été posé, parce que donc, finalement, il y a 10 ans d'errance, entre-temps.
Oui, alors en fait, j'en ai discuté du coup avec ma sœur. Je crois que c'est elle qui a posé le mot vaginisme, donc c'est même pas un médecin. Et ce qui nous a permis d'avoir un support, quelque chose pour pouvoir faire des recherches sur Internet.
Vous en avez parlé à votre sœur qui vous a dit, mais ouais. Moi j'ai entendu parler de ce truc-là, ça s'appelle le vaginisme.
Oui, exactement. Et du coup, bah, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu faire des recherches, qu'on a trouvé sur Internet. Des petits kits, des dilatateurs, je crois qu'après vous allez en discuter, qui sont là pour... Enfin, c'est des petits tubes, en fait, qui sont de taille de plus en plus grande, qu'on doit s'entraîner à insérer dans le vagin, et qui sont là pour nous aider à guérir. Et en fait, dans ce petit kit, il y avait même un petit livret où il y avait des témoignages, ce qui m'a fait, moi, beaucoup de bien déjà de savoir que je n'étais pas la seule, qu'il y avait un mot pour qualifier ce que j'avais, et puis de voir que, voilà, il y avait des femmes qui en avaient guéri, et puis surtout que je n'étais pas la seule, en fait.
Donc, vous avez tenté d'avoir un bébé, même si la pénétration est impossible. Donc, vous êtes passée par la PMA ?
Oui, on est passée par la PMA. On a fait 2 transferts d'embryons. Le premier a été compliqué. Il a fallu que je le fasse sous anesthésie générale, du coup.
Parce que impossible. Voilà, il faut bien, de toute façon, effectivement, faire pénétrer
un spéculum ouais. À minima. Et après, il y a eu le confinement. J'ai du coup eu le temps, j'étais complètement à l'arrêt au niveau du travail. Donc, j'ai eu le temps de m'entraîner énormément, de me renseigner, d'aller sur des forums, plein de choses sur Internet. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai fait beaucoup de progrès et j'ai pu faire le deuxième transfert d'embryon sans anesthésie générale. Donc, j'étais fière de
moi. C'est un énorme progrès déjà.
Voilà, c'était énorme pour moi. Mmh. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Enfin, voilà,
ça n'a pas tenu. Est-ce que vous avez pu trouver d'où venait ce vaginisme ? Quelles étaient les causes ?
Alors à force de recherche et à force de voir des thérapeutes, il y a plusieurs causes qui... Je pense que c'est multifactoriel. Hein. Une des causes qui revient souvent, c'est l'éducation assez stricte. On n'a pas le droit de parler de garçon. Alors moi, dans mon cas, il fallait vraiment omettre le mot copain, même ami. C'était copine, c'était fille, voilà. Donc ça a toujours été un peu dans mon esprit. Le sexe masculin, c'est pas bien depuis toute petite. Et puis après, effectivement, il y a eu, j'ai appris peut-être trop tôt, trop jeune, qu'il y a eu des personnes autour de moi qui ont subi l'excision du clitoris, dont j'étais proche. Donc ça a été difficile pour moi. Je pense que, en plus, j'étais un peu hypersensible petite, donc je pense que voilà, il y a eu plein de choses.
C'est une addition de plusieurs choses. C'est pas un gros traumatisme.
Non, ouais.
Vous disiez tout à l'heure que vous avez réussi à faire le deuxième transfert, donc sans être anesthésiée. Mmh. Est-ce que ces progrès-là, parallèlement, ça se voyait aussi dans votre vie sexuelle ? Est-ce que vous...
Oui. Alors, j'ai eu une pénétration pour la première fois complète début mai, du coup, à la fin du confinement. Mais faut se dire aussi que c'est pas magique, on guérit pas. Une fois qu'on a eu la pénétration, on n'est pas guéri. C'est toujours de l'entraînement. On a toujours peur de reculer au prochain rapport. On est toujours un peu stressé en se disant est-ce que je vais encore réussir ou est-ce que je vais m'apercevoir que non. Donc et puis c'est vrai qu'après avec la reprise du travail, j'avais moins le temps et donc les progrès étaient là, mais il y avait des régressions aussi parfois. C'était pas évident.
Et vous avez utilisé la seringue aussi pour continuer essayer de tomber enceinte ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est une technique qu'on avait vue sur Internet, où on insère une seringue dans son vagin. En fait, ça dépend des femmes vaginiques, mais moi, en tout cas, dans mon cas, je pouvais insérer, à force de m'entraîner et d'avoir appris à connaître mon corps, je pouvais insérer une sonde vaginale pour faire une échographie, je pouvais insérer une seringue de moi-même.
Seringue qu'on remplit évidemment du spermatozoïde.
Oui,
du
en l'occurrence. J'avais besoin d'avoir le contrôle. Je le dis aussi pour les médecins qui nous regardent, qui ont toujours besoin d'avoir la main sur la sonde. Ça, c'est pas possible, même s'ils appuient pas. Il faut qu'ils nous laissent faire. Enfin, il faut limite qu'ils soient à 1 mètre de nous. Voilà. Donc, en tout cas, pour moi, c'était ça. Et effectivement, on a essayé d'avoir un enfant avec la technique de la seringue, du coup, parce que, voilà, malgré la pénétration possible, j'avais du mal aussi avec les va-et-vient, parce que, du coup, de suite, je me stressais, je me contractais. C'était compliqué.
En août 2020, vous apprenez la grande nouvelle, merveilleuse, vous êtes enceinte. Comment vous avez réagi tous les deux ?
Gros soulagement, alors extrêmement heureux évidemment. Moi j'étais extrêmement, je sautais partout, enfin j'y croyais pas. Et puis j'avais l'impression aussi de pouvoir lâcher les armes. J'avais eu l'impression pendant 2 ans de me battre constamment. J'ai un petit peu envie de pleurer.
Ben c'est normal, c'est une histoire, c'est un long combat. Hein.
Ouais. Et vraiment, j'ai eu l'impression que le combat s'arrêtait, en fait. Parce que là, j'attendais mes règles pour de suite appeler le médecin encore, pour lui dire, ça y est, on peut programmer un rendez-vous, les échographies, les prises de sang pour les FIV. Mais également, tous les thérapeutes que j'ai vu hypnothérapeute, j'ai vu psychologue, j'ai vu des ostéopathes spécialisés dans la gynécologie, qui font des techniques internes, enfin... J'ai vu tellement de thérapeutes, j'avais toujours... En fait, je ne suis pas du tout patiente et je ne pouvais pas rester être passive. Donc, moi, je voulais un bébé et il fallait que j'agisse. Donc, j'ai eu l'impression à ce moment-là de me dire, c'est bon, c'est fait. J'arrête le combat et je profite de mon bonheur.
Vous le disiez, hein, vous avez pu supporter les échographies parce que vous mettiez la sonde vous-même, etc. Mmh. L'accouchement, ce n'était pas une trop grosse appréhension.
Alors,
comment ça s'est passé ?
Étonnamment, j'avais hâte d'accoucher, je n'avais pas du tout peur. J'avais vraiment peur qu'on rentre dans mon intimité. C'était pour moi quelque chose d'intrusif, mais par contre, faire naître un bébé, pas du tout. Après, bon, ça dépend complètement des femmes, encore une fois. Hein. On n'est pas toutes pareilles là-dessus. Et moi, je sais que je voulais être sage-femme à la base. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours... émerveillée, la naissance d'un enfant, donc non, j'ai pas du tout eu de peur.
Bonjour Laure Senmo, Karikiri, merci
Agathe.
D'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Vous êtes sage-femme et sexologue au centre d'accueil en santé sexuelle et de lutte contre les violences à la Pitié-Salpêtrière à Paris, et vous exercez aussi en cabinet à Vincennes. Je crois que vous ne chômez pas. On l'a vu, hein, Sophia a découvert son vaginisme à l'âge de 18 ans, quand il a fallu mettre un tampon. Quelle définition peut donner du vaginisme pour celles qui ne savent absolument pas ce que c'est, et est-ce que ça peut arriver à tout âge ?
Oui, alors...
Tout à coup, 47 ans, je pourrais avoir un blocage ?
Oui, c'est possible. Il y a deux types de vaginisme, elle l'a très bien expliqué. Il y a un vaginisme primaire qui apparaît dès le début de la vie sexuelle, et il y a un vaginisme secondaire qui peut être lié à un traumatisme, en fait, donc à n'importe quel moment de la vie. Et la définition du vaginisme, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est une contraction involontaire des muscles du périnée. Et alors, c'est récurrent, ça n'arrive pas qu'une seule fois, ça arrive plusieurs fois. Et elle a bien expliqué, c'est comme s'il y avait des portes, comme si le vagin se fermait.
Elle a dit, c'est du béton.
Complètement, voilà. C'est ça. C'est ce qu'elles décrivent, les patientes. C'est du béton. Voilà, donc il y a des vaginismes primaires, des vaginismes secondaires. Il y en a qui sont partiels. Parfois, on peut introduire un tampon, éventuellement un spéculum. Et puis, parfois, il n'y a rien du tout qui rentre. Ni le pénis, ni le tampon, ni les spéculums, ni l'examen gynéco.
Alors, on a reçu deux questions de Cassandre. Deux en une. Est-ce qu'on connaît les causes du vaginisme et est-ce qu'on peut en guérir complètement ?
Alors, je vais commencer par la deuxième
question. Déjà, guérir, ce n'est pas une maladie.
C'est pour les femmes, je pense que c'est une réelle maladie, oui. Oui, on peut en guérir, en fait. On peut en guérir complètement si on est pris en charge. Je crois qu'on va en reparler après. Les causes, elles sont multifactorielles. Sophia a parlé d'éducation. C'est très important, l'éducation à la sexualité. Si on ne parle pas de sexualité ou alors si on a une image négative de la sexualité, on s'imagine qu'avoir un pénis à l'intérieur, c'est sale et donc ça ne peut pas rentrer.
Après, surtout que dans certaines cultures, c'est interdit vraiment avant le mariage. Et je sais de quoi je parle. Voilà.
Ouais, on retrouve beaucoup ça, effectivement, dans le Moyen-Orient, pour être très général. Il y a aussi tout ce qui est mutilation génitale, tout ce qui est excision, infibulation, etc. Souvent, ça peut provoquer des vaginismes. Et alors après, ça peut être un traumatisme comme une infection urinaire mal guérie quand on est petite, avec cette zone qui est très douloureuse. Et du coup, ça laisse une empreinte en fait, dans le corps. Parfois, on ne retrouve pas de cause, ça arrive. Et puis parfois, c'est des traumatismes psy, quels qu'ils soient, ou vraiment quand on fouille un peu dans la famille, au niveau du couple parental, il s'est passé des choses, on peut retrouver un peu tout et il n'y a pas une cause de vaginisme. Mmh. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien
fouiller. Ce n'est pas forcément des femmes qui ont été agressées sexuellement.
Non,
Parce que naturellement, on penserait ça.
Oui, alors on ne retrouve pas plus de femmes agressées sexuellement dans l'enfance, dans la population des femmes vaginiques.
Ah, oui.
C'est le même taux.
C'est très intéressant.
Est-ce qu'on peut souligner l'exceptionnel courage de Sophia pour venir raconter tout ça à la télé ? Il y a eu plein de messages pour dire bravo. Même vous me disiez, c'est fort.
Oui, c'est extraordinaire.
Oui, parce que c'était un vrai effort. Il ne faut pas vraiment, je le redis, elle n'est pas venue en se disant cool, je vais faire la télé. Pas du tout. Elle le fait vraiment pour la cause.
Non, c'est super.
Faut lui rendre hommage.
À propos de ce tabou, justement, question de Léa.
Bonjour, merci de prendre ma question. Je suis bénévole et adhérente des Clés de Vénus. Beaucoup de femmes s'interrogent sur la possibilité de guérir du vaginisme suite à un accouchement. Qu'en est-il réellement? L'accouchement guérit-il du vaginisme? Merci pour votre réponse.
Alors, les Clés de Vénus, c'est donc une association qui œuvre à réduire le tabou autour de ce sujet. Est-ce que l'accouchement peut guérir?
Non.
C'est quelque chose qui circule, ça? Alors, parce que on a vu quand même que ça avait... Enfin, en tout cas, il y a eu un avant et un après pour notre témoin tout à l'heure, mais ça veut rien dire quand même.
Non, ça veut rien dire. Non, c'est pas du tout le même mécanisme. On est d'accord, un bébé, ça sort, ça ne rentre pas. Et s'il n'y a pas une prise en charge autour, l'accouchement ne guérit pas du vaginisme, hein, absolument pas.
D'accord. Donc, on aura bien compris qu'il faut une vraie prise en charge, on l'a vu aussi. Il faut être proactif, je crois.
Complètement.
Et ça, c'est très, très important.
Mais en principe, si les femmes viennent consulter pour ça, elles sont très proactives. Elles sont dans une détresse incroyable. C'est ça qui est capital dans le vaginisme. Elles sont en souffrance, en fait, ces femmes. Donc, elles ont besoin d'être aidées.
Peut-on souffrir de vaginisme après une césarienne, nous est-on demandé? C'est impossible de mettre un tampon ou de supporter une pénétration depuis ma césarienne.
Tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est un cas de vaginisme secondaire. On peut considérer que peut-être la césarienne a été un traumatisme pour cette patiente. Peut-être qu'elle n'était pas préparée à cet acte et qu'elle a été vraiment traumatisée par ça. Et donc, oui, ça peut arriver.
Et alors, comment elle peut travailler dessus?
Comment elle peut travailler dessus? On allait voir un expert, donc plutôt sexologue, hein, j'ai envie de dire, sage-femme, kiné, psychosexo ou médecin sexo, ça existe aussi. Il faut qu'elle en parle surtout, ça c'est vraiment très important, il faut oser briser le tabou et le dire en fait.
Bien sûr.
Donc, et puis après, elle va être prise en charge.
Ce qu'on peut dire, c'est que la démarche d'aller en parler ne doit pas être simple. Mais en revanche, pour vous, ce n'est pas votre quotidien. Mais je veux dire, ce n'est pas du tout un tabou pour vous. Il n'y a pas de honte à avoir du tout.
Pas du tout. Non, mais comme la sexualité de base est un tabou, le vaginisme, c'est-à-dire ne pas être pénétré, c'est-à-dire être anormal en fait, hein, par rapport à la société, les autres femmes, c'est très compliqué. Mais une fois qu'elles ont franchi le cap d'en parler...
C'est pour ça que le témoignage de Sophia, je pense, va faire du bien.
J'espère.
Parce qu'il y a des femmes qui vont se dire, en fait, je ne suis pas...
Oui. C'était incroyable et très représentatif des femmes en fait, qu'on rencontre...
Dans votre cabinet, consultation.
Oui.
Alors Claire, vous dites, depuis toujours, je souffre de douleurs pendant et après les rapports. Est-ce qu'on peut expliquer la différence entre le vaginisme et ce qu'on appelle les dyspareunies?
Alors donc, ça n'a effectivement rien à voir. Même
comme
si
je
parfois...
ne sais pas ce que c'est que la dyspareunie.
La dyspareunie, en fait, c'est une douleur à la pénétration. Il y a deux types de dyspareunie, une dyspareunie superficielle, donc plutôt à l'entrée du vagin, et des dyspareunies profondes, qui n'ont pas du tout les mêmes causes. La dyspareunie profonde, typiquement, ça peut être des problèmes de côlon irritable ou d'endométriose.
D'accord.
Voilà. Et la dyspareunie superficielle, ça peut être lié en post-accouchement à un traumatisme, une déchirure. Ça peut être lié en fait à une infection au niveau vaginal ou alors à un trauma psychologique. Il faut réfléchir. Parfois, on trouve ça dans les conjugopathies, des problèmes de couple. Mm-hmm. Le fait d'avoir mal, ça peut peut-être dire je vais mal dans mon couple.
Donc, si je comprends bien, là, c'est une douleur alors que le vaginisme, c'est une impossibilité.
Exactement. Voilà.
C'est ça.
Mona dit « J'ai compris récemment que je souffrais de vaginisme, mais je ne sais pas qui consulter, vers quel spécialiste puis-je me tourner. J'ai l'impression que beaucoup ne sont pas formés sur le sujet. » Vous disiez « Il y a des spécialistes, etc. » Mais si on va en voir avec son médecin généraliste, par exemple, est-ce qu'ils sont sensibilisés à ces sujets?
En fait, très peu. Il y a très peu de sexologues en France. Hein. On en forme en fait tous les ans, mais il n'y en a pas suffisamment probablement. Toujours pareil, la sexualité, c'est tabou. On n'est pas formés, nous, soignants, médecins, sages-femmes, etc. On est vraiment très peu formés à ça.
Je crois qu'hier, vous formiez des étudiantes en sage-femme en cinquième année.
Ouais.
C'était la première fois qu'elles entendaient parler du vaginisme en
cinquième
année. C'est-à-dire juste avant de commencer à exercer.
Oui, exactement. Elles n'avaient jamais eu de cours là-dessus, sur le vaginisme, les dyspareunies. Donc en fait, on n'est pas formé. Donc si on n'est pas formé, du coup, ça nous gêne, nous, d'en parler. Le patient, il voit que le médecin n'en parle pas. Donc du coup, il n'en parle pas non plus.
Ça lui confirme que c'est anormal.
Voilà.
C'est ce qui s'est passé avec Sophia et sa gynéco. Ouais. Hein, très certainement, elle n'était pas au fait.
Ouais.
Et donc elle a dit, je ne suis pas sexologue parce qu'elle a été décontenancée.
Donc en fait, il y a des réseaux, hein. Je pense tout à l'heure on a parlé des Clés de Vénus, il faut aller voir, hein. Il y a des non-professionnels bienveillants et formés, il faut y aller, hein. Il faut que ça soit le bouche à oreille qui développe ça et que les femmes aient accès à un spécialiste en fait, qui va les écouter surtout. C'est des femmes qu'il faut écouter, c'est extrêmement important.
Depuis tout à l'heure, on parle de cette impossibilité de pénétration, mais moi j'ai une question sur le plaisir. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont réussi finalement petit à petit à accepter la pénétration, et en tout cas à ce qu'elle soit possible, est-ce qu'elles arrivent à avoir du plaisir?
Alors, avant ça, on peut avoir du plaisir autrement que par
bien
la
sûr.
Pénétration.
Moi, je parle du... Bien sûr, mais le plaisir, du coup, à cet endroit-là.
Une fois qu'elles sont guéries de leur vaginisme, oui. En fait, la guérison du vaginisme, en fait, c'est pas juste la pénétration, on est d'accord. Hein. Mmh. C'est une sexualité épanouie et satisfaisante pour le couple, pour la femme, pour le monsieur et pour le couple, en fait. Oui, oui, bien sûr. Oui,
d'accord.
Oui.
Mmh.
Marie, on parle beaucoup des... Non, vous inquiétez pas, je ne vous parle pas du vaginisme spécialement.
Mais non, mais vous-même, je ne suis pas formée.
Vous qui avez une communauté énorme sur Instagram, vous voyez beaucoup de messages. On dit que c'est tabou de parler de la sexualité. Les réseaux sociaux aident, j'ai l'impression, à la prise de parole sur ces sujets tabous. Vous le constatez ou c'est moi qui délire?
Non, je pense qu'il y a déjà une prise de parole sur le fait d'avoir envie ou pas envie. Ça commence à se libérer. Après, sur les pathologies plus précises, c'est exactement ce que vous disiez. Comme les gens ne sont pas formés, on a l'impression d'être anormal, j'imagine. Et donc, c'est plus compliqué de libérer la parole quand il n'y a pas eu de partage d'expérience en amont. Typiquement, un partage d'expérience comme celui de Sophia ce matin va pouvoir permettre de libérer enfin cette parole.
Mmh. Eh ben, je vous confirme, on en reçoit beaucoup. Eva, par exemple, dit « Mon vaginisme, dû à des attouchements enfants, s'est estompé, mais je suis dérangée par mes parties génitales à vélo avec des vêtements moulants après un rapport. Aucun professionnel ne trouve de solution. Est-ce que vous auriez une idée ?»
Alors non, là, comme ça, c'est pas possible. Il faut quand même faire un examen précis, il faut quand même faire des prélèvements, il faut essayer de comprendre pourquoi. Le vélo, ça revient assez souvent, d'ailleurs, dans les patients de vaginique, hein, des douleurs. Certaines patientes utilisent des caleçons un peu spéciaux, mettent de la crème, etc., pour pallier à ça. Mais je pense qu'il faudrait qu'elle voie effectivement quelqu'un formé en sexo. C'est important.
Ça pourrait venir de complexes aussi, le vaginisme, alors, chez certaines femmes.
De complexes, pas forcément, mais de ce qu'on appelle une dysmorphophobie. C'est-à-dire que c'est des patientes qui ne voient pas leur sexe, en fait, leur vulve et leur vagin comme ils sont réellement.
C'est ça.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éducation autour du vaginisme. Moi, je travaille beaucoup avec des photos, avec des schémas anatomiques pour expliquer, en fait, ce qu'est une vulve. Normal.
Oui, parce que...
C'est-à-dire toutes.
De la même façon qu'il n'y a pas un zboub qui se ressemble, il n'y a pas un vagin, une vulve qui se ressemble. Lila, je vous regarde parce que vous êtes le seul à avoir un zboub autour de cette table.
Après,
Question de Lila qui vous dit « J'ai appris qu'on pouvait utiliser des dilatateurs pour travailler soi-même sur un souci de vaginisme. En quoi ça consiste exactement ?» Je crois que vous en avez apporté.
Alors, j'en ai apporté deux sortes, en fait. Il y en a deux sortes, il n'y en a pas 50. Il y en a qui sont rigides, en fait, et il y en a qui sont un peu plus souples. C'est les numéros 1 de chaque dilatateur. Et en fait, on augmente la taille du dilatateur. Moi, je ne laisse jamais les patientes travailler seules avec des dilatateurs. On travaille au cabinet, en gros, une séance, un dilatateur. On se relaxe, on travaille d'abord sur le périnée, la prise de conscience du périnée, c'est-à-dire les muscles qui entourent la vulve et l'anus. J'explique qu'elles sont capables de contracter, de décontracter, on respire beaucoup. Et progressivement, en fait, on va les insérer dans le vagin pour expliquer qu'il n'y a pas de mur, qu'il n'y a pas de porte et que c'est possible, en fait. C'est très important. Et au bout de la séance, en général, on arrive à insérer le premier dilatateur. Après, elles travaillent à la maison avec le même numéro de dilatateur. Et puis la fois d'après, on passe au dilatateur plus grand progressivement jusqu'à arriver à un dilatateur qui est globalement la taille d'un pénis moyen.
Et elles acceptent que ce soit vous qui le mettiez ?
Oui, tout à fait. Oui. Mais évidemment, c'est avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance.
Oui, il y a un vrai travail, j'imagine, en amont avant
ça. Oui, tout à fait. Si ce n'est pas possible aujourd'hui, ce n'est pas grave. On essaiera la prochaine fois. Si on peut insérer un demi-centimètre, ce n'est pas grave. On va y aller progressivement. Mmh.
Existe-t-il plusieurs degrés de douleur dans le vaginisme ? J'arrive à avoir des rapports avec mon compagnon, mais j'ai toujours des douleurs pendant ou après. La première pénétration est toujours douloureuse.
Alors, est-ce que c'est encore du vaginisme ? C'était la question aussi sur les dyspareunies. Le vaginisme, c'est vraiment une pénétration impossible par contraction des muscles. Après, on peut aussi avoir du vaginisme et des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs. Donc ça, c'est pareil, il faudrait faire un examen clinique soigné et voir si c'est des dyspareunies un peu plus importantes.
Théodora vous demande si c'est possible ou difficile d'avoir accès à la PMA pour cause de vaginisme.
On l'a vu avec Sophia, c'est possible. Je crois que c'est environ 20% des couples qui consultent pour infertilité dont on ne trouve pas d'étiologie, de raison. Donc pourquoi pas ? Oui, oui, tout à fait.
Alors, et le couple dans tout ça ? Amandine dit « Je suis vaginique, j'ai une sexualité épanouie sans pénétration pendant un temps avec mon copain, mais j'ai peur qu'il se lasse ou soit frustré sans me le dire ». Est-ce qu'on peut consulter en couple ? Oui, ça déjà.
Bien sûr, ça c'est, on doit même consulter en couple. Hein. Moi, j'associe toujours le partenaire de la patiente.
Parce que
quand
oui,
c'est
cette question
stable.
Doit forcément être posée, celle de la frustration du conjoint.
Oui, alors écoutez, globalement, moi j'ai des couples, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont ensemble et la patiente est vaginique. Ils ont des rapports sexuels extrêmement satisfaisants pour les deux. Et je rencontre les hommes, hein, donc ils me le disent. La femme a des orgasmes, elle a du désir, enfin voilà. Je crois que si ça commence à poser une souffrance dans le couple, c'est là où il faut consulter, en fait. Que ça soit pour monsieur ou pour madame, il faut consulter s'ils veulent passer à une sexualité pénétrative.
Alors Diane, elle a 22 ans, elle vous dit « J'ai jamais osé aller chez le gynéco car je n'arrive même pas à insérer un tampon. Le spéculum me terrifie. Est-il possible de réaliser des examens gynéco sans spéculum ?»
Alors, avant 25 ans, on n'est pas censé mettre un spéculum aux patientes.
D'accord.
Première chose, les frottis, ça commence à 25 ans. Moi, je sais que les patientes que je vois qui ont moins de 25 ans, et j'en reçois beaucoup, des jeunes filles en particulier, la première consultation, je ne les examine jamais, sauf s'il y a une plainte, évidemment, si ça gratte ou s'il y a quoi que ce soit. On n'est pas du tout obligé de mettre un spéculum. On discute beaucoup. Il y a des spéculums pour vierges, qui sont vraiment tout petits, et surtout que la patiente peut insérer elle-même. Pareil, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On reviendra une autre fois. Vous avez vu ma tête, madame. Vous voyez qu'a priori, ça va bien se passer. Et vous revenez quand vous êtes prête. Mais en fait, on ne doit pas mettre des spéculums aux patientes de moins de 25 ans. Ça ne sert à rien, en fait. Après, je ne peux que conseiller d'aller voir une sage-femme, mais bon.
Et Léa dit « Je suis enceinte de 7 mois et vaginique. Malgré des progrès ces dernières années, je n'arrive pas à envisager un accouchement par voie basse. Ai-je le droit de demander une césarienne ?»
Le droit, oui, oui, en tant que patient. Oui. Après, il faut discuter avec les équipes. On est plutôt pro-voie basse en France, hein, globalement. Voilà, on surveille les taux de césarienne qui sont à peu près de 20%. Je crois que tout est possible. Il faut aller discuter avec le chef de service ou avec le médecin référent de la maternité.
Mais dans ce cas-là, si vous avez une patiente qui vous dit ça, vous lui expliquez ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est très percutant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui sort et pas qui rentre.
Oui.
Donc mais ça n'appuie pas sur le même mécanisme.
Non, mais c'est vrai que ça peut bloquer des patientes en fait pendant le travail. Il y a des patientes vaginiques dont le col ne s'ouvre pas parce qu'elles ont peur en fait.
Hein. Oui, c'est ça.
Ça, c'est une notion hyper importante. J'ai peur de cette zone-là. J'ai peur. Et donc, il y a des patientes qui, de toute façon, ont une césarienne en urgence. Alors,
parce qu'elles se contractent, quoi.
Complètement.
Ève vous dit « Je n'ai pas de souci de vaginisme pendant les relations sexuelles, mais je bloque lors des examens gynécologiques. Je viens d'apprendre que je suis enceinte et les échographies m'angoissent. » Est-ce que vous pouvez me donner des conseils ?
Alors, la première échographie, en principe, elle se réalise à 12 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 12 semaines sans ses règles. À ce terme-là, on est censé pouvoir faire une échographie par voie abdominale, c'est-à-dire en posant la sonde sur le ventre. Avant ça, on peut faire des échographies de datation. C'est plus facile en endovaginal, en mettant une sonde dans le vagin. C'est tout à fait possible de demander au praticien d'insérer soi-même la sonde. Mais alors ça ne change absolument rien pour le praticien. Il faut juste faire attention parce que ça coûte 30 000 euros la sonde, mais c'est tout. Mais c'est tout à fait possible. Pareil, le bouche à oreille, le réseau. Qui est-ce que je pourrais aller voir pour avoir une échographie en endovaginal où j'insère moi-même ma sonde ?
Allez, on termine avec une dernière question qui va nous faire élargir le sujet. Jeanne, j'ai l'impression que mes copines ont des rapports sexuels plusieurs fois par semaine, mais nous, c'est plus rare. Du coup, elle vous demande si, selon vous, son couple est en danger.
Mais je ne crois pas. Si c'est satisfaisant pour lui et pour elle, pas du tout. Il n'y a pas de norme, hein, même si dans certains magazines, on voit des sondages, j'ai tant de rapports par semaine. Le tout, c'est que ça soit satisfaisant et que ça ne crée pas de souffrance.
Merci beaucoup à Laure Senmo-Karikiri, sage-femme, sexologue, d'être venue nous voir dans la maison des maternelles. Et merci à Sophia d'avoir accepté de se raconter sur ce sujet qui est si sensible auprès d'Agathe Le Caron. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve demain, vendredi. Chouette, ce sera le week-end. On aime bien le week-end. On se retrouve demain, donc vendredi, sur France 2 à 9h25. Et d'ici là, en podcast ou sur les réseaux sociaux. Ciao tout le monde.